Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Dégradation accidentelle ou sabotage en eau trouble. En moins de 48 heures, dimanche et lundi, deux câbles sous-marins de fibre optique ont été endommagés en mer Baltique. Ils reliaient la Suède à la Lituanie et la Finlande à l'Allemagne, qui dénonce un acte intentionnel.
Personne ne croit que ces câbles ont été coupés accidentellement. Qu'on ne me fasse pas croire que ce sont les ancres de bateaux qui ont fait ça. Il faut supposer qu'il s'agit d'un sabotage.
Qui avait intérêt à couper ces câbles de communication? Un navire chinois a été repéré sur zone, mais les regards se tournent vers la Russie, qui mène une guerre hybride contre l'Occident en combinant espionnage, brouillage GPS, cyberattaque, désinformation et ingérence électorale. Réunis à Varsovie, des ministres européens des Affaires étrangères n'ont pas attendu les conclusions des enquêtes en cours en mer Baltique pour accuser Moscou.
La Russie de Poutine reste l'une des menaces les plus importantes, non seulement pour la sécurité de l'Europe, mais aussi pour l'ordre mondial. Nous devons fermement contrer ses ambitions impériales.
Mais jusqu'où Vladimir Poutine est-il prêt à aller entre guerre hybride et menace d'attaque nucléaire ? Kiev accuse la Russie d'avoir tiré contre l'Ukraine un missile balistique intercontinental. Les États-Unis affirment qu'il s'agit d'un missile de moyenne portée, tandis que la Russie demeurait silencieuse cet après-midi. En pleine conférence de presse, la porte-parole de la diplomatie russe a reçu un appel téléphonique et une consigne. Pas de commentaire. Alors, de l'Ukraine à la mer Baltique, quelle est la stratégie russe? Comment Vladimir Poutine conjugue-t-il menaces nucléaires et attaques hybrides? Peut-il déstabiliser l'Europe?
Eh bien, nous allons voir ça tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, Dimitri Minik. Bonsoir, bienvenue à vous. Chercheur au Centre Russie-Eurasie de l'IFRI, docteur en histoire des relations internationales, vous avez publié « Pensée et culture stratégique russe du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine ». Et ce qui s'est passé en mer Baltique, et qu'on évoquait à l'instant dans ce sujet, vous dites que c'est peut-être un acte de déstabilisation de cette grande guerre indirecte que mène la Russie, cette guerre hybride qui s'intensifie, dites-vous, et qui est, selon vous, plus à craindre d'ailleurs que la menace nucléaire brandie de temps à autre par Vladimir Poutine. À vos côtés, Guillaume Mancel, bonsoir, bienvenue à vous. Ancien officier, chroniqueur de guerre, auteur du blog « Ne pas subir » et du livre « Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette » qui vient de paraître chez Flammarion. Pour vous, Guillaume Mancel, si les Russes sont responsables de ces ruptures de câbles, eh bien, si c'était le cas, il faudrait y voir une forme d'avertissement pour montrer aux Européens leur vulnérabilité. Et ce dont il faut le plus se méfier, dites-vous, dans cette guerre hybride, ce sont surtout les attaques informatiques, par exemple sur les hôpitaux et les banques. Et puis, à vos côtés, bonsoir Alexandra Saviana, bienvenue à vous, grand reporter à l'Express. Vous avez publié les scénarios noirs de l'armée française chez Robert Laffont. Et selon vous, Alexandra Saviana, la guerre hybride, c'est une menace immédiate, dites-vous, alors que la guerre nucléaire reste un grand tabou. Ces sabotages qui ont eu lieu en mer Baltique, s'ils ont eu lieu en mer Baltique, c'est parce que c'est une zone bien précise, un lieu très symbolique et stratégique depuis que la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN. Et bien, précisément, pour ouvrir ce débat, Marion, vous avez une carte de cette région.
Et la carte du jour, c'est donc la mer Baltique, là où dimanche et lundi, deux câbles de télécommunication ont été rompus, l'un entre l'île suédoise de Gotland et la Lituanie, l'autre, c'est plus de 1000 km entre Helsinki en Finlande et Rostock en Allemagne. Alors Dimitri Minik, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé en fait.
Non, on ne sait pas ce qui s'est passé, l'enquête est en cours, mais d'abord je crois qu'il faut inviter à la prudence hein, dans l'attribution des responsabilités diverses et variées. Ça pourrait très bien être une cause naturelle en fait, hein. Ça pourrait être aussi un accident d'une activité humaine, mais ça peut aussi être un acte de déstabilisation, un acte de sabotage, clairement une forme de signalement, mais en tout cas si c'est le cas, ce serait une composante, effectivement. Le terme guerre hybride, je le réfute. Hein, c'est plutôt, on peut parler de guerre indirecte. On a déjà un arsenal de concepts très bien élaboré pour décrire tout ce qui se passe. Oui, ça serait une composante de la guerre indirecte russe. Il faut comprendre que depuis 30 ans, depuis la chute de l'Union soviétique, l'armée russe, la théorie militaire russe, a pensé et mis en doctrine et mis en œuvre ce que j'ai appelé le contournement de la lutte armée, c'est-à-dire tout un tas d'actions, à la fois non militaires, non armées, mais en même temps militaires indirectes, dans le but, parce qu'ils l'ont cru et ils ont essayé de le faire, dans le but de soumettre des États cibles ou des blocs d'alliance. Hein, c'est comme ça qu'ils le voient.
Guillaume Ancel, donc prudence à ce stade sur la nature des faits. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des câbles de télécommunications hein, qui, de fait, ont été sectionnés. Il y a donc une dimension importante. Ce sont des réseaux stratégiques, en l'occurrence, ce qui peut alimenter, évidemment, l'hypothèse d'une action russe, par exemple.
En fait, la question, c'est que nos sociétés hyper digitalisées ne sont pas programmés pour faire la guerre en même temps. Donc la guerre contre nos systèmes digitaux nous met très vite en difficulté. Ces câbles ne sont pas cruciaux. D'ailleurs, la preuve, ils ont été interrompus. Personne n'a vu tous ces services tomber. Mais ils nous rappellent quand ils sont abîmés, quand ils sont attaqués, qu'en fait, on a besoin de ces autoroutes de l'information. Et c'est là où on réalise que dans nos sociétés très ouvertes et très rapides, on a un certain nombre de fragilités qui peuvent être exploitées.
Grande dépendance, en fait, ce que vous dites.
Une dépendance, comme l'a expliqué Dimitri, qui peut faire l'objet d'attaques, parce que forcément, demain, si vous bloquez tous les systèmes bancaires, bah, la société s'arrête à peu près de vivre. Et puis, en fait, on s'aperçoit que le jour d'après, on recommence à vivre parce qu'on n'a pas le choix.
Alexandra Saviana, c'est donc un endroit très stratégique, cette mer Baltique ?
Absolument, on le disait tout à l'heure, surtout depuis que la Finlande et la Suède ont adhéré à l'OTAN, on a parlé beaucoup de lac otanien désormais, parce qu'effectivement, il y a toutes ces puissances otaniennes.
On voit la carte à l'écran.
Exactement, qui sont autour de cette mer-là. Maintenant, le fait qu'un câble comme ça puisse potentiellement, restons prudents, être attaqué, c'est aussi un symbole, parce que ça montre que le harcèlement russe, le harcèlement psychologique russe, si la responsabilité est attribuée à la Russie, continue, y compris dans les frontières de l'OTAN, y compris dans une zone qui est pourtant censée appartenir à l'Alliance Atlantique.
Alors, prudence sur la nature des faits, on l'a dit et répété. Et pourquoi faut-il être prudent ? Bah parce que les opérations relevant peu ou prou de ce qu'on appelle la guerre hybride ne sont jamais revendiquées par leurs auteurs. Ainsi, par exemple, du sabotage du gazoduc Nord Stream, c'était en 2022, et c'est notre archive du jour.
Des fuites de gaz visibles à la surface de l'eau. Trois bouillonnements impressionnants. Des images filmées par l'armée danoise. L'une des zones d'effervescence s'étale sur plus d'un kilomètre de diamètre, l'autre forme un cercle de 200 mètres de diamètre. Alors, est-ce un accident ou un sabotage ? La première fuite s'est produite hier sur Nord Stream 2, les deux suivantes aujourd'hui sur l'autre gazoduc parallèle au premier. D'où ces bouillonnements en mer Baltique, à l'ouest du tracé de ces immenses tubes d'acier qui transportent le gaz de la Russie vers l'Allemagne.
Alors à l'époque, c'est la Russie qui est soupçonnée. Et puis depuis, le Wall Street Journal, l'été dernier, a désigné, lui, les Ukrainiens et même les autorités ukrainiennes qui, elles, démentent. Bref, on est encore dans le flou, là, encore une fois, hein, Guillaume Ancel.
Oui, en fait, dans ce genre d'opération, personne ne le revendique et personne n'acceptera jamais une vérité officielle. Dès qu'on arrive sur une hypothèse, l'auteur se dépêche d'introduire de nouvelles nouvelles, ce qui fait que, en général, la règle pour les opérations spéciales, c'est qu'il n'y a que des vérités spéciales. Et même quand on croit être arrivé au bout d'une enquête, le doute subsiste. C'est l'objet même de ces services.
C'est ça le but d'une guerre hybride, d'ailleurs, c'est de semer le doute. C'est un des objectifs, effectivement.
Oui, totalement. Mais c'est de semer le doute, même de diviser. Hein. C'est fondamentalement, c'est diviser des sociétés, c'est corrompre des élites, les reformater psychologiquement, hein, comme peuvent le dire les théoriciens russes et les stratèges russes. Bien sûr, c'est l'objectif. Et là, on est en plein dedans, dans le cadre de la guerre en Ukraine, évidemment, puisque la Russie, elle poursuit deux objectifs, gagner la guerre en Ukraine sur le terrain et parallèlement mener cette guerre indirecte férocement contre l'Occident, car l'objectif stratégique principal de la Russie aujourd'hui, c'est couper les livraisons d'armes à l'Ukraine, isoler l'Ukraine sur la scène internationale et finir en tête-à-tête avec elle. Et ça aura une incidence dans les négociations. Je crois que les exigences de la Russie, de ce point de vue, seront maximales.
Alexandra Saviana, le patron des services secrets allemands, lui dit qu'on est déjà en conflit direct avec la Russie, en faisant référence à toutes les ingérences, les affaires d'espionnage. Est-ce qu'il a raison ?
Une chose qui est certaine, c'est que, notamment depuis les élections européennes, on voit une multiplication de sabotages intervenir sur le sol européen. Vraiment, ça, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une action. On se souvient en France notamment des cercueils à la Tour Eiffel, on se souvient des mains rouges. Ce sont des actions de désinformation, ce sont des actions de sabotage, ce sont des petits malfrats qui vandalisent la voiture du ministère de l'Intérieur estonien, par exemple. Ce sont toutes ces affaires qui sont censées déstabiliser déstabiliser psychologiquement l'autorité publique, l'opinion publique, pour la retourner justement et pour convaincre les dirigeants à terme donc de ne plus livrer d'armes, comme on le disait.
Juste en quelques mots, très brièvement, est-ce qu'on peut recenser les actions, les outils au service de ce qu'on appelle une guerre hybride, Guillaume Ancel? Ça passe par quoi?
En gros, c'est tout ce qui n'est pas militaire et sur le terrain opérationnel.
D'accord.
Mais je voudrais juste rappeler une chose.
Donc, y compris la cyberguerre, la désinformation, les actions.
Ce qui est étonnant, c'est que dans notre société, on s'est installé dans le fait qu'on ne faisait plus la guerre. C'est ce qu'on estime depuis la fin de la guerre froide. Un ami a recensé que la France, depuis la fin de la guerre d'Algérie, a participé à 34 guerres. On n'a jamais été en guerre, mais on l'est tout le temps.
Dimitri Ménic, en clair, tout est devenu une arme dans la guerre hybride.
Oui, on a pu effectivement parler d'arsenalisation de tout. Je reviendrai juste sur un point. Je pense qu'il faut, quand on analyse ces sujets, il faut sortir de l'analyse théorico-ethnocentrée. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à ce que les Russes disent eux-mêmes, écrivent eux-mêmes, mettent en doctrine ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, de leur point de vue à eux. Et là, pour, justement, je rebondais sur votre question. Qu'est-ce qu'eux pourraient mettre dans la guerre hybride comme outil? Ils le disent très clairement, politique, économique, psychologico-informationnel, comme ils disent, cybernétique, du sabotage, des actions terroristes aussi, et un tas d'autres actions.
Mais Dimitri Ménic, ils disent pas que ça en ce moment, les Russes, justement, ils disent autre chose, notamment ils agitent la menace nucléaire, Vladimir Poutine l'a déjà fait, ils repensent leur doctrine nucléaire. Ça, il faut l'écouter aussi, ou c'est du bluff vos yeux ?
Il faut toujours écouter une menace, il faut toujours écouter un pays qui dispose d'autant d'armes nucléaires attentivement. Après, l'analyse est là aussi pour relativiser quand c'est justifié ce qu'ils disent. D'abord,
vous n'y croyez pas à cette menace, la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine ?
À ce stade, je n'y crois pas. Il faudrait qu'au moins deux conditions soient réunies. Il faudrait que la Russie se sente incapable de lutter contre les Ukrainiens sur le plan conventionnel et que l'Ukraine soit en passe de récupérer des territoires symboliquement importants ou que, au fond, l'armée ukrainienne, ses incursions en Russie soient incontrôlables. Vous voyez, il y a beaucoup de scénarios. Mais juste un point, en fait, les menaces nucléaires dont vous parlez, qui ont été largement rhétoriques et qui, d'ailleurs, depuis le début de la guerre, ont affaibli la crédibilité de la dissuasion nucléaire russe, ils y sont revenus et il ne faut pas voir ces thèmes comme des thèmes séparés. Les menaces nucléaires, la rhétorique nucléaire russe fait partie de cette guerre indirecte. C'est la dissuasion stratégique qui a été pensée, si vous voulez, comme un outil de guerre indirecte.
Alors, si je vous suis bien, et vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, vous ne croyez pas à l'imminence de cette menace de déclenchement d'une guerre nucléaire, Dimitri Ménic, peut-être notamment parce que vous êtes ici, d'ailleurs, à Paris, parce qu'ailleurs, certains redoutent et prennent très au sérieux cette menace, et ça les amène, d'ailleurs, à distribuer des kits de survie, c'est le cas en Suède.
Ah oui, les pays scandinaves, eux, se préparent. Lundi, 5 millions de Suédois ont reçu dans leur boîte aux lettres ce livret jaune de 32 pages avec des conseils très pratiques sur quoi faire en cas de guerre, de cyberattaque ou de catastrophe naturelle, par exemple. Comment est-ce qu'on se protège en cas de raid aérien? Eh bien, on va se cacher dans un garage, dans un abri ou bien dans le métro. Comment est-ce qu'on fabrique son kit de survie? Eh bien, avec des boîtes de conserve, de l'argent liquide, des comprimés d'iode et puis, bien sûr, un téléphone et son chargeur. Évidemment. Autre conseil, comment est-ce qu'on parle de la guerre aux enfants en étant honnête, en ne leur donnant pas trop de détails et en essayant de détourner leur attention avec des activités. Mais surtout, les autorités suédoises, elles insistent sur l'importance pour le peuple suédois de rester unis en cas de crise. Même genre de communication en Finlande avec le lancement d'un site web interactif qui donne des conseils similaires. Et puis en Norvège, tous les Norvégiens ont reçu un guide de survie que l'on voit ici qui permet de tenir une semaine en cas de conflit, donc avec une checklist à cocher pour apprendre à ne rien oublier si jamais ces personnes se retrouvaient dans une telle situation. Guillaume Ancel, si ces pays se préparent autant et si sérieusement, c'est que la menace est réelle, non ?
Alors, ce n'est pas la menace nucléaire, c'est la menace d'une guerre. En fait, tous les pays nordiques sont absolument convaincus que, de toute façon, si l'Ukraine tombe, ils seront menacés. De même que les Pays-Bas, de même que la Pologne. Pourquoi ? Parce que la guerre, ils la voient. En fait, nous, on a l'impression qu'on est à 1500 km et qu'on n'est pas encore trop concernés, alors que dans ces pays-là, ce n'est pas la peine de leur expliquer la menace, ils la voient, ils ont le sentiment qu'ils seront les prochains agressés. Que si on n'arrive pas à faire respecter les frontières de l'Ukraine, il n'y a pas de raison que Poutine, qui commence déjà à dire qu'il y a des nazis dans les pays baltes et puis qu'on en veut en Finlande aux Russes, ne pousse pas sa frontière jusqu'où ses chars le mènent. C'est pour ça que c'est crucial d'arrêter Poutine, parce que le seul langage que comprend Poutine jusqu'ici, c'est la force.
Mais d'ailleurs, il y avait eu tout ce projet de mur de drones avec 6 pays de l'OTAN, notamment, pour se protéger des attaques de drones russes.
Mais la préparation qu'on évoque là, pour les Suédois, elle est cruciale parce que notre société a été beaucoup trop persuadée que la guerre ne les concernait plus. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que font notamment les médias en France de réacculturer notre société au sujet de guerre est fondamental pour que les gens imaginent que de toute façon, on est déjà en guerre, on sera obligé de vivre avec et on dormira bien parce que de toute façon, si on perd cette guerre, on perd tout face à Poutine. Donc la question, c'est comment on se défend ?
Alors la question qui va peut-être alimenter les craintes sur le nucléaire, c'est que Kiev accuse la Russie aujourd'hui d'avoir tiré un missile balistique intercontinental d'une portée de 6000 km en direction de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk. C'est le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky, qui l'a dit aujourd'hui.
Сьогодні була нова російська ракета. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю.
Alors, on l'a vu tout à l'heure, le Kremlin refuse de commenter. Les États-Unis, eux, parlent d'un missile expérimental de moyenne portée, donc pas un missile balistique intercontinental. Dimitri Minnick, pourquoi c'est important cette distinction? Pourquoi c'est important qu'un tel missile ait pu être tiré ou pas?
Là, c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, ça correspond bien à la théorie et à la doctrine militaire russe, hein, en fait. Hein, puisque c'est, si vous voulez, la Russie ne pense pas à la dissuasion en fonction des armes utilisées, mais en fonction de... est-ce que c'est une dissuasion régionale, une dissuasion mondiale? Pour une dissuasion régionale, elle pourrait utiliser tout l'arsenal nucléaire, en tout cas tous les types d'armes possibles. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut se souvenir qu'en fait, ça fait très longtemps que les militaires russes demandent au Kremlin de développer des missiles balistiques à portée intermédiaire qui sont donc en opposition avec le FNI, qui sortent du cadre du FNI, donc de contrevenir au traité tout simplement.
C'est pour le FNI, c'est
le traité des missiles
intermédiaires.
Balistiques intermédiaires, voilà, c'est ça.
Missiles balistiques intermédiaires.
Voilà. Et au fond, le FNI, lui, parlait d'une distance comprise entre 500 et 5000 km. La Russie a développé ces missiles qui pouvaient dépasser en fait, ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque où il pense ça, il propose de développer ce type de missile, il pense à la politique hostile, hein, je les cite, de l'Occident, l'expansion de l'OTAN, etc. Et c'était pour offrir à la Russie une marge de manœuvre, si vous voulez, alors, en Europe continentale, pas forcément contre les Américains, mais continentale, pour effrayer l'Europe, pour tétaniser l'Europe.
Justement, Alexandra Saviana, il y a cette volonté d'effrayer, de tétaniser l'Europe, mais dans ce cadre-là, on le voit, évidemment, il y a une guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un lien, un échange, une discussion entre les Russes d'un côté et les Américains de l'autre? On voit, puisque les Américains, eux, offrent aujourd'hui, donnent leur propre version de ce fameux missile qui a été tiré l'année dernière.
Oui, alors il y a effectivement...
Il y a des contacts qui demeurent.
Il y a des contacts qui demeurent. Maintenant, il y a eu cette question aussi de est-ce que les Russes peuvent envoyer un missile comme ça sans prévenir les autorités américaines. En théorie, ils sont censés devoir les prévenir au moins 24 heures avant. Donc, les contacts établis existent toujours. Maintenant, il s'agit quand même d'un signalement stratégique très fort. La Russie lance un avertissement qui est onéreux. Pour Moscou, hein, c'est pas un missile qui se lance à peu de frais, et donc ça doit être pris en considération autant par les autorités américaines que par les Européens. Le but, c'est intimider.
Voilà, c'est une stratégie d'avertissement aussi, d'intimidation. C'est un peu du même ordre, même si là, il y a effectivement un missile qui a été lancé, que des menaces de guerre nucléaire évoquées par Vladimir Poutine.
Et par ailleurs, ça se place dans le cadre de nouvelles livraisons d'armes, justement. Est-ce que, alors que l'échéance de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche se rapproche, Donald Trump qui a dit pendant la campagne, je le rappelle, qu'il voulait résoudre la guerre en Ukraine et qu'il pourrait le faire en 24 heures.
Ouais. Donc voilà. Le 21 janvier sera réglé, puisqu'il arrive au pouvoir le 20 janvier. Voilà.
Donc maintenant, tout le monde a une échéance, tout le monde se précipite, les États-Unis livrent des armes, l'Europe se demande si effectivement elle va le faire. Scholz passe un coup de téléphone à Poutine. Poutine montre les muscles. Et là, maintenant, le temps s'accélère parce qu'on a 1-2 mois devant nous avant que Donald Trump arrive.
Guillaume Ancel, oui, le temps s'accélère. Ça va s'intensifier jusqu'en janvier prochain.
Bien sûr, parce que finalement, Donald Trump impose son agenda. C'est l'acteur clé, en réalité, de ce conflit. Il a décidé qu'à partir de son investiture, il stopperait la guerre. Alors attention, il n'a jamais dit qu'il allait trouver la paix, hein. Il a dit qu'il allait arrêter la guerre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Il n'a jamais donné la méthode précise, d'ailleurs.
Exactement. Sujet, hein. Et donc, il y a forcément une accélération, puisqu'on connaît la date de fin de ces combats, Et par conséquent, les deux acteurs, d'ailleurs, essayent de monter à toute vitesse. On voit que le président américain aux affaires jusqu'au 20 janvier, Joe Biden, vient de donner l'autorisation cruciale aux Ukrainiens de frapper sur le sol russe et pas seulement d'utiliser les missiles ATACMS. Et que par conséquent, les Ukrainiens ne se gênent pas de frapper jour après jour, une, c'est pas toutes les cibles en même temps, mais pour bien montrer aux Russes qu'ils peuvent vraiment les pénaliser dans leur attaque. Et les Russes, Poutine, est obligé de riposter parce qu'il veut montrer qu'il va arriver à la table de négociation avec beaucoup plus que les autres, qu'il est une puissance nucléaire. Mais quand il parle de sa puissance nucléaire, un ami journaliste s'est amusé à compter, ça fait plus de 110 fois. 110 fois en 1000 jours, il a quand même une régularité de métronome, hein, voilà, qui mentionne l'arme nucléaire. Donc ça veut dire que le nucléaire, ben, il en parle tout le temps. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de guerre nucléaire. Parce que le nucléaire est une arme de destruction massive. Donc le jour où on rentre dans le champ du nucléaire, c'est la fin de la guerre.
Dimitri Minnick, cette stratégie hein, d'intimidation va de pair avec une intensification aussi de la guerre hybride, de ce qui relève de la guerre hybride. D'abord, y compris d'ailleurs avec cet agenda que tous les acteurs ont en tête, hein, c'est-à-dire l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier.
Oui, en même temps, il faut le remettre dans le contexte immédiat de l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée occidentale contre la Russie. Ça a été analysé par Moscou comme une mesure escalatoire. Et donc, conformément à leur théorie et leur doctrine, ils cherchent à empêcher l'escalade, à freiner l'escalade, à dissuader l'ennemi hein, pour
même
eux.
Même si eux-mêmes ont fait venir 10 000 renforts nord-coréens qui participent.
Oui. Mais eux, ils acceptent l'escalade de leur côté, oui, pas de l'autre. Et donc, de faire la désescalade, comme ils disent. Donc, c'est ça le sujet. Après, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas de conclusion hâtive, évidemment. Je vais rappeler deux éléments systémiques qui font que la doctrine évolue ou non pour la Russie. Le premier, c'est l'affaiblissement ou non des forces conventionnelles et des forces et moyens non militaires, notamment en Occident. Et le deuxième, c'est le changement de perception de la menace. Pour les Russes aujourd'hui, la menace d'un conflit potentiel, régional ou général avec l'OTAN, est devenu plus crédible qu'il y a 15 ans, en fait.
Alexandra Saviana, le mot de la fin sur une question bien précise. On a beaucoup évoqué la guerre hybride menée par les Russes, les outils auxquels ils recourent de longue date et l'intensification de cette guerre hybride. Nous, de notre côté, Français ou Européens, on est blanc-bleu, comme on dit, on est totalement innocent. Nous, on ne pratique pas ce genre de... On recourt pas à ce genre d'outils pour mener, nous aussi, parfois, des formes de guerre hybride, bien sûr.
En tout cas, nous, on se défend désormais et on n'hésite pas à le montrer. Je pense notamment à des agences comme Viginum, par exemple.
On a les moyens de se défendre de la guerre hybride qu'on nous mène ?
On a de plus en plus les moyens. On va dire, on a quand même une agence française qui livre des rapports, qui désormais n'hésite pas à dénoncer quand la France est victime d'attaques hybrides. Je pense notamment à ce qui s'est passé, j'en parlais tout à l'heure, avec les cercueils, avec les mains rouges à Paris en début d'année. Donc la France commence à s'armer. Elle n'admet pas et elle ne revendique pas mener de guerre hybride.
Merci. Merci à tous les trois. Ce sera le mot de la fin. Pour ce soir, en tout cas, merci à tous les trois d'être passés ce soir par le plateau de 28 minutes.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.